Moi, je suis rentré du Mouchima au Kassa Oriental. J'ai repris totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai été de Boubaki au Kassa Oriental. Je pense qu'en combinant les deux, ben, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, c'est l'heure de parole aux auditeurs, l'émission 100% interactive de Radio Tapi, une émission qui vous offre l'opportunité de vous exprimer sur des faits d'actualité qui vous intéressent. Ce mercredi, notre émission d'environ 1h15 est consacrée au don du sang en marge du 14 juin, la journée internationale du don bénévole du sang. Cette journée est une occasion pour réfléchir sur l'importance, l'enjeu du don de sang, mais aussi une opportunité pour sensibiliser la population et remercier les donneurs bénévoles. Selon les autorités sanitaires, grâce au don de sang, des millions de personnes, des milliers de vies sont sauvées chaque jour. Quelle est la situation du don de sang chez vous? Que faire pour approvisionner régulièrement les banques de sang? Voilà les questions qui vont lancer notre émission. Pour en parler, nous avons invité Dr Sylvain Yuma. Il est le directeur du service national de transfusion sanguine. Sitim Poutou, Belia Massinga, sous la supervision de Nicole Ndaka, sont à la réalisation de cette émission du Manzambou et à la mise en œuvre.
Parole aux auditeurs.
Aujourd'hui, nous parlons du don volontaire de sang en marge de la journée internationale du sang. À cette occasion, les dons de sang, il faudrait dire que à cette occasion, ici en RDC, il y a eu plusieurs manifestations dans différentes provinces. Et les dons de sang, c'est un processus par lequel un donneur de sang est volontaire pour se voir prélever du sang qui sera stocké dans une banque de sang puis servira à une transfusion sanguine dans toutes les provinces, dans tous les hôpitaux, dans la plupart en tout cas. Souvent, il y a des transfusions sanguines et dans certaines provinces, il y a des banques de sang. Aujourd'hui, c'est notre préoccupation en rapport avec la journée mondiale du don de sang. Quelle est la situation chez vous? Qu'est-ce que vous connaissez? Est-ce qu'il y a des banques de sang? Est-ce qu'il n'y en a pas? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on doit donner son sang? Est-ce que c'est volontaire ou on doit se faire payer? Comment ça se passe chez vous? Et aussi, comment faire en fait pour approvisionner régulièrement les banques de sang, comme l'a signalé les statistiques des autorités sanitaires? Grâce au don de sang, des milliers de personnes, des vies sont sauvées chaque jour. Nous vous demandons de pouvoir intervenir à cette émission. Il suffit de composer le 081-890-6315, je répète le 081-890-6315, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Et nous avons invité pour vous Dr Sylvain Yuma. Il est le directeur du service national de transfusion sanguine. Avec lui, nous allons échanger sur la situation des banques de sang, comment ça se passe chez vous et que faire pour approvisionner régulièrement ces banques de sang.
Parole aux auditeurs.
En attendant que nous puissions contacter notre invité qui sera au bout du fil, parce qu'il a tellement de réunions, mais il s'est donné la peine, il nous a appelé quelques minutes avant cette émission pour nous dire que pour l'instant il est dans un embouteillage assez difficile, mais il va quand même pouvoir répondre à nos préoccupations, aussi écouter les préoccupations des auditeurs, les suggestions, afin de pouvoir régulièrement approvisionner les banques de sang. La réalisation me fait signe que docteur Sylvain Yuma est déjà en ligne. Bonjour docteur.
Oui, bonjour.
Oui, docteur, aujourd'hui nous parlons du don bénévole de sang en marge de la journée internationale du don de sang. Dites-nous docteur, quel est l'enjeu, la nécessité de donner du sang?
Oui, merci beaucoup madame pour avoir donné cette opportunité de m'adresser à des milliers et des milliers de Congolais et même d'autres qui sont d'autres qui ont choisi la RDC comme leur pays où ils vivent.
Mm-hmm.
En fait, le don de sang est certainement un acte précieux, comme vous l'avez dit en introduction. Des milliers de vies sont sauvées chaque jour à cause du don de sang.
Mm-hmm.
et grâce au don de sang. Donc, c'est dire que, comme nous disons, le don de sang, c'est le don de la vie. Et parce que quand la personne a besoin du sang, ce n'est pas comme un médicament qu'on va prescrire pour aller chercher dans une pharmacie, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse donner ce sang-là, pour qu'il puisse en bénéficier. Et souvent, la vie est au bout de ces gestes-là. Voilà.
Et quels sont les préalables pour pouvoir donner son sang?
Bon, les préalables sont le plus simple possible. Et donneur, c'est lui et c'est tout homme ou femme qui a d'abord l'âge de la majorité, chez nous c'est à partir de 18 ans, et qui est en bonne santé apparente, c'est-à-dire donc la bonne santé, il faut que ça soit certifié en face d'un médecin ou d'un infirmier qualifié pour pouvoir décider. Et donc, il suffit seulement de se présenter à un poste ou dans une banque de sang ou à un centre de transfusion. Et la personne est soumise à un certain nombre de questionnaires et tout de suite, elle est prélevée. Donc, c'est un geste simple, mais on prend seulement des précautions pour prévenir d'abord le fait que le donneur ne soit pas au dépôt de cet acte-là, qu'il ne sorte pas malade ou qu'il ne sorte pas avec un autre effet qui peut lui causer du tort au niveau de sa santé. Et c'est tout, quoi.
Mais là, on revient, il y a aussi une question qui revient souvent. Est-ce qu'il y a un risque de donner son sang?
Il n'y a aucun risque de donner son sang. Parce que nous faisons ce qu'on appelle la sécurité transfusionnelle. Et cette sécurité commence d'abord par le donneur. Donc, il faut sécuriser le donneur. Et puis après, on sécurise les receveurs. Donc, c'est un couple donneur-receveur.
Alors, nous allons vous garder au bout du fil, le temps d'écouter aussi d'autres auditeurs qui voudraient vraiment donner leur avis, ce qui se passe chez eux concernant ce don de sang. Mais entre-temps, parce que là, on a un problème aussi de ligne pour pouvoir avoir nos auditeurs, et nous rappelons nos contacts, il suffit de composer le 081-890-6315. Dès que vous composez ce numéro, vous aurez au bout du fil le Titi Mputu, et vous pourrez lui donner votre nom, aussi la ville d'où vous appelez, ainsi que votre numéro de téléphone. Donc, ce sera en moins de 30 secondes, ce qui permet à nos services de pouvoir vous rappeler, et à ce moment-là, on va vous mettre en ligne et vous pourrez vous exprimer à propos de ce sujet qui vous préoccupe, je suis sûre, parce que dès que vous nous appelez, ça signifie que vous avez une attention particulière en rapport avec ce don de sang. Nous avons toujours Dr. Sylvain Ayouma qui est au bout du fil. Il pourra répondre à vos préoccupations, mais aussi il pourra, par rapport aux suggestions que vous allez donner, parce que lui, il est le directeur du service national de transfusion sanguine, donc il a une idée assez large sur l'ensemble du pays, ce qui se passe dans nos provinces concernant la transfusion sanguine. Nous avons déjà David qui est au bout du fil. David, malheureusement, la réalisation nous fait signe que David, on a eu encore un problème avec David pour pouvoir le garder en ligne, le temps de pouvoir contacter nos autres auditeurs qui veulent participer à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Docteur Sylvain Ayouma, nous espérons que vous êtes toujours en ligne.
Oui, je suis là, madame. Je suis là.
En fait, le 14 juin, c'est une journée où on peut réfléchir sur l'importance, le rôle du don du sang. Mais ici, à Kinshasa, qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir sensibiliser les donneurs volontaires du sang?
Ok, à Kinshasa, principalement, il y a eu d'abord une grande activité de lancement de la journée qui a été faite par son excellence, le ministre de la Santé publique. C'était au Centre national de transfusion sanguine. Comme vous le savez, le 14 juin, c'est en fait d'abord une journée pour dire merci à tous ceux qui ont déjà posé ces gestes-là de sang. Et puis, c'est aussi l'occasion de sensibiliser d'autres pour qu'ils fassent comme ceux-là qui ont déjà expérimenté le sang. Alors, dans ce cadre-là, on a effectivement fait cette journée et on a profité pour primer quelques jeunes donneurs en rapport avec, bien sûr, le thème de cette année, c'était le monde a besoin du sang neuf. On a primé quelques donneurs des associations connues, c'est-à-dire qui ont fait des donneurs qui ont 25 ans, qui ont fait au moins 10 dons. pour les abîmer, juste une façon symbolique de leur dire merci et qu'ils puissent continuer.
Est-ce qu'il y a un intervalle, il y a un intervalle pour pouvoir donner son sang? À quelle fréquence on peut donner son sang?
On donne le sang 3 fois par an. Pour une femme, 4 fois par an pour un homme.
Ouais. Et déjà, on a pu recontacter David qui est à Guémena. Bonjour David. David? Oui, David, cette fois-là, vous êtes au bout du fil. Mais il y a aussi un retour, et c'était possible que vous pouvez soit vous éloigner de votre poste récepteur, ou carrément l'éteindre, et suivre l'émission à partir de votre portable, téléphone portable.
Oui, je sais,
d'accord. Oui, en fait, David, dites-nous, quelle est la situation du don du sang chez vous à Guémena?
Oui, effectivement, ici à Guémena, particulièrement, il y a dans le centre de santé, il y a un officier dans la ville pour les dons des sangs. Alors, la population se pose des questions pourquoi il y a ce jour un baguette de magie pour chercher à donner le sang volontairement. Donc, il y a ce jour de maladie qui est affecté. Et il y a eu un cas qui est survenu au niveau de l'hôpital de l'Ambassade Guémena. Il y a eu l'examen de 54 des bons positifs. Il y a eu un examen qui a été passé pour les bons positifs de l'enfant. Alors il y a eu une contradiction entre la mère et l'enfant. Ils ont rencontré le sang d'un aussi qu'elle pense que ça ne s'appelait pas la légalité sur le sang de la consultation médicale. Alors ça a causé la mort auprès de cet enfant. Je ne sais pas quelle mesure que le ministère de la Santé a pris pour examiner les dons de tous les donneurs qui participent à cette opération et donner directement et conditionnellement. Parce que si vous n'avez pas le donner au Congo, aller donner les sangs directement partout, sans dénuder. Mais je crois qu'il y a les dysfonctionnements qui en fait le milieu des centres médicaux. Il n'y a pas d'évolution vraiment en dynamité. Et il y a les congélités qui sont posées parce qu'il y a, beaucoup de coups de mort qui ont été faits, qui posent sur le même point que l'autre et les coups de mort.
Donc, ce que vous regrettez, c'est qu'il n'y ait pas eu souvent, vous pensez qu'il n'y a pas souvent d'examen approfondi afin de pouvoir voir s'il y a une compatibilité entre le donneur et le bénéficiaire, le receveur, et vous souhaitez qu'il puisse y avoir des mesures pour pouvoir garantir en fait cette transfusion sanguine. Merci David pour votre participation à cette émission. Bonjour Pierre.
Bonjour Radio Capi, bonjour aussi à tous les auditeurs. C'est Radio Capi qui les écoute depuis Mbujimayi.
Et en fait, en Mbujimayi, vous nous suivez sur 93.8 FM. Dites-nous, Pierre, quelle est la situation chez vous?
Ah oui, la situation ici en Mbujimayi, j'ai toujours vu. C'est une situation que j'ai toujours vu. Et souvent, à l'hôpital cancellé, l'hôpital de référence de cancellé, il y a des patients, des gens qui ont des patients, des mamans, des papas, qui se débrident de leurs patients, qui viennent souvent à l'université officielle de Mbujimayi auprès des étudiants cherchés, des étudiants qui ont des groupes compatibles au groupe de patients, qui peuvent avoir du sang et des situations pareilles. Mais la question que je me pose là-dessus est de savoir où va tout ce sang qu'on a toujours collecté dans des hôpitaux, ce sang destiné à aider les gens qui présentent des carences, qui présentent des situations de transfusion. Ce sang-là va où? Parce que de temps en temps, on voit des mamans, des papas venir à l'université officielle de Mbujimayi parce que l'université officielle de Mbujimayi est côte à côte et dans le même parage que l'hôpital de Kansele. Ils viennent souvent là-bas demander aux étudiants s'ils peuvent les aider avec du sang afin que leurs patients retrouvent la vie. Mais tout ce sang qu'on a toujours collecté là, c'est ça où?
Mais quelle est votre crainte? Parce que apparemment vous avez une crainte, c'est vrai, vous posez des questions où va ce sang, mais vous avez peur de quoi? Du fait que ce sang soit pris des donneurs bénévoles?
Oui, la crainte qui est là, la majeure crainte, c'est celle qui est dit, concernant par exemple les GHSIDA, la maladie, les gens, on n'arrive pas, parce que je connais une situation récemment, il y a un monsieur qui a fait passer les sangs, mais les sangs là, il n'a pas été bien traité parce que donc le donneur était souffrant de maladies, mais celui qui avait aussi transfusé des sangs, le médecin, je ne sais pas si l'infirmier, n'avait pas bien consulté le monsieur. Alors ce qui a fait que en prélevant les sangs, on a dû contaminer aussi les malades. Alors de cette situation-là, a fait couler beaucoup d'encre du côté Djibouti là-bas.
Mmh.
Alors, on se demande, lorsqu'on transfuse, lorsqu'on donne le sang à quelqu'un, on ne prend pas de précautions sur le plan médical pour voir comment prendre les chances de ceux qui sont malades, ou soit de ceux qui ne sont pas malades et les écarter. C'est un peu ce qui
se passe. Oui, encore une fois, vous posez presque la même question que David, la préoccupation de David sur les mesures de sécurité. Quelles sont les garanties d'avoir un son de bonne qualité pour le receveur, mais aussi les garanties sur le donneur. Merci Pierre de votre intervention à partir de Mbujimayi. Nous avons toujours le docteur Sylvain Ayouma qui est en ligne. Docteur, je l'espère que vous êtes toujours au bout du fil. Vous avez suivi les préoccupations de nos auditeurs, c'est assez pertinent. Quelles sont les garanties d'avoir une bonne qualité de son?
Voilà. Merci beaucoup. Je remercie David et Pierre pour leur préoccupation et surtout pour l'intérêt qu'ils donnent à l'activité que nous faisons, qui est une activité vraiment très capitale pour la vie des gens.
Mm-hmm.
En effet, la sécurité est une préoccupation primordiale en matière de santé. Pour cela que le pays s'est organisé, donc le ministère de la Santé a créé tout un programme national de transfusion sanguine qui a comme sous-bassement la sécurité des transfusions à travers le pays. Et dans ce cadre-là, le programme a mis sur pied ce qu'on appelle les normes pour pouvoir dispenser une transfusion, pour pouvoir administrer une transfusion.
Mm-hmm.
Donc il y a des critères qui sont là. On ne peut pas d'abord prélever le sang sur n'importe qui, c'est-à-dire quand la personne se présente, il y a ce qu'on appelle un examen clinique sommaire qu'on doit faire pour ces donneurs-là. C'est-à-dire qu'on doit parler d'abord avec le donneur.
Mais docteur, est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il existe quand même certains personnels soignants qui commettent ces erreurs-là? Et est-ce que quand ils commettent ces erreurs, quelles sont les sanctions?
Voilà, je suis en train de vous expliquer d'abord comment les choses doivent se faire. Et c'est ça, il y a des normes qui ont été élaborées pour se faire. C'est-à-dire faire en sorte que la transfusion soit une transfusion de qualité conforme, indemne de tout risque.
Mm-hmm.
Bon, c'est vrai que nous disons en médecine, les risques zéro n'existent pas. Mais ici, il y a des précautions pour minimiser sérieusement ces risques-là. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, pour les donneurs qui arrivent, prendre toutes les précautions d'usage pour que les donneurs soient sélectionnés. C'est-à-dire on doit regarder est-ce que c'est quelqu'un qui a une bonne santé, on va parler avec elle en rapport avec ses antécédents de maladie. On doit l'examiner aussi physiquement, voir s'il n'a pas de signes de maladie.
Mm-hmm.
Et puis après, on doit faire aussi un counseling, c'est-à-dire pour essayer de screener un peu sur son comportement, si c'est quelqu'un qui n'a pas un comportement à risque par rapport, par exemple, au VIH et aux autres pathologies. Et tout ça, ça se fait dans une confidentialité, dans une convivialité, parce que les gens sont formés pour ça. Et après, quand on prélève ce sang doit strictement être passé par un certain nombre d'examens. Donc, on doit tester ce sang au VIH, à l'hépatite B et à l'hépatite C, ainsi qu'à la syphilis. Et même dans les zones endémiques à la maladie du sommeil, on doit aussi passer ce sang-là au test, ça c'est pour détecter les anticorps de la maladie du sommeil. Donc, c'est après ça qu'on peut administrer ce sang-là. Alors, ici aussi, ce qu'il faut dire, c'est que on ne transfuse pas n'importe où. Parce que si cette personne-là a dit qu'il est allé, peut-être, elle est allée se faire transfuser dans un petit dispensaire derrière la rue, là, ça c'est autre chose. La transfusion se fait dans un hôpital où il y a un médecin, ou soit il y a un infirmier qui est formé, et où il y a un minimum de conditions acceptables.
Mm-hmm.
C'est ça, là. Parce que si,
quelqu'un s'est dit, bon, je vais aller dans ce petit dispensaire où il n'y a rien, il n'y a même pas de locaux, il y a...
Même pas de laboratoire.
Oui, c'est vraiment, on peut douter de la qualité du sang. Dans ce type-là qui n'est pas habilité à pouvoir poser cet acte-là, parce que c'est un acte purement médical.
Mais autant de précautions d'usage, est-ce que les poches de sang ont une durée de vie? Parce que, par exemple, il y a Pierre de Mujima qui s'est posé la question, souvent, on donne le sang, il y a des donneurs bénévoles, où va ce sang-là? Est-ce que ces poches de sang ont une durée de vie?
Oui, une poche de sang, du sang total, là, et à rapport avec le produit de conservation, ça fait 30 à 35 jours au maximum. Mmh. Au-delà de ça, la poche est déclarée périmée et on doit la jeter.
Et vous la jetez.
Et aussi, à condition que ce sang soit conservé dans des conditions optimales, c'est-à-dire dans un frigo avec conditions, avec surveillance de la température d'une manière régulière.
Mmh.
C'est ça.
Nous allons aussi écouter Dr Delphonse et la Bounia et Pierre Akindou. Docteur Delphonse, bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Mais dites-nous, docteur, vous êtes médecin, donc vous connaissez bien ce qu'est la transfusion sanguine, le don du sang, mais dites-nous à Bounia comment ça se présente, comment ça se passe.
Oui, radiocapie, le don de sang paraît être un sérieux problème dans la culture où je travaille, c'est-à-dire le sein général de référence.
Mm-hmm.
Et c'est là par rapport à la demande accrue de transfusion.
Mm-hmm.
Et parfois, nous sommes habitués au problème lié aux ruptures, de sang dans les banques de sang. Car on n'a pas assez de donneurs, pour bénévoles. Et même, parfois, nous sommes habitués au problème sur lequel même la famille du bénéficiaire, ne veut pas du tout s'aider ou faire prélever son sang.
Mm-hmm.
On a un téléphone que nous connaissons à Bounia.
Mais est-ce que vous avez suffisamment le matériel adéquat pour pouvoir garder ce sang?
Oui, par rapport à l'équipement, vraiment, nous pouvons nous en féliciter parce que vraiment l'état qu'on relève, il faut quand même de nous approvisionner assez bien par rapport aux intras et par rapport au matériel.
Mm-hmm.
Mais ce qui est vrai, c'est que nous pouvons toujours faire un peu bien, c'est que la sécurité transfusionnelle soit le plus sécurisé possible
pour
le
cas
général. Je n'ai pas donné le nombre accru, je le dis bien accru, des demandeurs de sang.
Est-ce que vous avez essayé de pouvoir échanger avec, par exemple, des familles qui refusent le prélèvement du sang, de donner son sang pour un frère ou une sœur? Est-ce qu'ils vous ont donné les raisons pour lesquelles ils refusent cela?
Le plus souvent, vous savez, à Bounia, le plus souvent, ce sont des choses qui sont finies, dont je ne peux pas citer, le nom. Vraiment, c'est une chose qui paraît très utile par rapport au don des nouveaux du sang, ou par rapport au don du sang. Et cela, par rapport au comportement à risque qu'on a fait de part et d'autre. On sait très bien que quand on récite son sang, soit qu'on est ses repos, alors cela fait que beaucoup en redoutent.
Et on regarde Et au regard de toutes ces difficultés, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour pouvoir avoir plus de donneurs de sang et approvisionner d'une façon régulière les banques de sang?
Oui, actuellement, à l'hôpital général de Bounia, nous venons d'adopter un mécanisme, dont je pourrais vous citer, sinon, beaucoup pourront arrêter. Nous avons développé un mécanisme pour pouvoir vraiment approvisionner assez régulièrement notre banque de sang.
Donc, vous appelez les habitants de Bounia, ceux qui nous suivent en ce moment à Bounia, c'est dans la province orientale, et ils sont branchés sur 104.9 à pouvoir donner bénévolement leur sang. Merci beaucoup, docteur Delphonse, pour votre participation, votre intervention. Bonjour, Pierre. Pierre est à Kindu, au Maniema, mais là, on l'a perdu. Nous allons essayer de pouvoir le recontacter afin qu'il puisse s'exprimer à ce sujet assez intéressant sur le don bénévole du sang.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à notre invité, le docteur Sylvain Youma. Il est directeur du service national de transfusion sanguine. Encore des auditeurs qui ont donné leurs avis. Apparemment, il y a un blocage au niveau des croyances, us et coutumes. Des fois, en Afrique, lorsqu'on parle du sang, on voit le sang, c'est la vie. Même lorsqu'il y a un accident de circulation, il suffit de voir du sang pour conclure hâtivement, même qu'il y a eu des morts. Face à ces croyances-là, docteur, quels sont vos mécanismes à vous sur le plan national pour pouvoir avoir plus de donneurs de sang?
Okay. Le mécanisme le plus important que nous faisons, c'est apporter la bonne information.
Mm-hmm.
Et cette information, nous l'apportons en ciblant des groupes spécifiques, des groupes organisés, et à travers lesquels on peut passer le message, en tout cas, d'une manière interactive, en posant des questions et en répond.
Mm-hmm.
Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place une stratégie, c'est la stratégie des pères et critères. C'est en fait, on prend un noyau de donneurs, les gens qui ont accepté de poser ces actes-là, on les forme, c'est-à-dire on renforce leur capacité dans la communication pour qu'ils puissent aussi aller parler aux autres. Et quand ils rentrent dans leur milieu respectif, ils donnent leur expérience par rapport au don de sang, et souvent, on a constaté que, comme c'est quelqu'un de leur milieu respectif, il va parler à ses proches, et souvent, les gens le suivent. Et autre chose, c'est on passe par les leaders, certaines opinions comme certains chefs d'église, qui eux-mêmes déjà font les gestes, donc ils posent l'acte de don de sang. Et puis après, en montant cette expérience, les autres le suivent aussi. Donc on utilise aussi des supports via les médias, tout ça, qui font qu'on fait passer le message.
Mm-hmm.
Sinon, c'est un problème réel. Vous avez un article de don de sang. Le sang lui-même est entouré par une sorte de mysticisme autour qui fait que parfois que les gens ont peur.
Mm-hmm.
Et parce qu'on dit qu'à travers le sang, on véhicule les mauvais esprits et ainsi de suite. Et souvent, les gens ont peur de donner leur sang et peur que ça puisse leur causer du tort. Mais quand on donne l'information, je pense souvent on voit que les gens adhèrent à cet acte.
Mm-hmm. Quand ils voient qu'il y a des personnes qui sont sauvés par rapport à ce don de sang. On a pu récupérer Pierre de Kindu. Bonjour Pierre. Pierre, toujours impossible de pouvoir le contacter. Alors nous allons à Kamina, où se trouve Aziza. Bonjour.
Bonjour, bonjour madame la journaliste.
Oui, Aziza, dites-nous à Kamina, quelle est la situation du don de sang?
Oui, la situation du don de sang ici à Kamina, c'est quand même bien. Moi, qui vous parle aussi, je suis un abonné du sang.
Un donneur bénévole.
Oh, oui. Alors, ce que je voulais demander, il n'y a pas de récompense prévue pour celui qui donne le sang. Ça, c'est bénévolement comme ça. Ça ne va pas. Nous sentons des fois, nous avons des douleurs comme nous sommes des groupes où nous se donnons le sang, mais il n'y a pas de récompense.
Donc, vous aurez souhaité qu'on puisse récompenser les donneurs bénévoles de sang?
Normalement.
Et d'ailleurs, le docteur Sylvain Youma nous a donné un exemple, par exemple, en rapport avec la journée internationale du don bénévole de sang. On a quand même primé certains donneurs bénévoles, mais quand vous dites que vous ne vous sentez pas bien, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous donnez votre sang?
Lorsque nous sentons, nous donnons le sang, des fois vous vous sentez un peu très faible lorsque vous rentrez à votre domicile. Et il faut que vous donniez un peu quelque chose pour vous rétablir afin de récupérer votre sang et pour que prochainement vous donnez encore.
Et qu'est-ce que vous faites souvent après avoir donné le sang? Est-ce que vous mangez un aliment spécial, spécifique? Comment ça se passe?
Bon, pour avoir un aliment spécifique, il faut avoir des moyens, sinon on prend seulement ce qu'on trouve à la maison. Et comme je suis encore chez nous, je suis un célibataire, ce que je trouve, je prends et je récupère comme je suis des groupes pour que ça puisse pour me rétablir encore.
Donc Aziza, nous avons le témoignage d'Aziza qui souhaite qu'il y ait plus de récompenses aux donneurs bénévoles du sang. Cette fois-là, Pierre est au bout du fil. Bonjour Pierre.
Bonjour, madame la journaliste.
Vraiment, Pierre, nous avons eu beaucoup de mal à pouvoir vous contacter à partir de Kindu, mais heureusement, on a pu vous avoir. Dites-nous à Kindu, comment ça se passe?
Bon, réellement, ce qui se passe ici, chez nous, au Maniema, c'est une crainte, tout simplement, que je vais présenter au docteur qui est avec vous là-bas.
Mm-hmm.
La crainte loge sur les garanties qu'on donne et au donneur et au receveur du sang. Pourquoi? Parce que chez nous, ici au Maniema, il n'y a pas de moyen de conservation de ce sang.
Mmh.
Et vous trouverez que dès qu'il y a un malade à l'hôpital, des fois on envoie les gens qui sont avec ce malade chercher n'importe où le sang.
Mmh.
Donc, à ce moment-là, parce que les personnes ont besoin de leur malade, ils peuvent prendre les soins de n'importe qui. C'est comme on dit souvent que les donneurs recevront quelque chose, qui commence à vendre les soins. Et à ce moment-là, n'importe qui quand même passer au test et ainsi des autres, et de suite, il va donner le sang. Alors, quelle garantie réellement qu'il y a chez nous au Maniema qui peut conserver le sang bonnement, mais aussi les gens qui donnent le sang, ils ne mangent pas bien, raison pour laquelle vous trouvez, il n'y a que des étudiants qui donnent parce qu'ils cherchent des frais académiques.
Mm-hmm.
Mais les autres, parce qu'ils ne sont pas garantis, ils ne donnent pas leur sang comme ça.
Merci Pierre pour votre intervention. Bonjour Séraphin.
Oui, bonjour à Madame Marie Chantal.
On vous écoute.
Oui, en fait, je voudrais d'abord, j'ai compris un peu l'inquiétude de certains précédents auditeurs qui m'ont précédé.
Mm-hmm.
Je voudrais d'abord réagir à propos de celui qui a appelé à partir de Kingu, qui a dit qu'il faudrait qu'il y ait une récompense auprès du donneur bénévole du sang.
Mm-hmm.
Mais malheureusement, quand vous êtes déjà donneur, donc cela vous fait des dons. Le don est à titre d'abord gratuit.
Mm-hmm.
Alors, d'autres précédents auditeurs qui ont émis un peu des doutes sur l'état chirurgique des donneurs bénévoles, mais je voudrais juste les affirmer que moi, personnellement, je suis d'abord donneur bénévole du sang. On ne peut pas soutirer le sang d'un donneur bénévole sans un examen préalable afin de s'imprégner de son état chirurgique. Donc, il faudrait assez qu'il sache qu'avant de prélever le sang, donc avant de soutirer le sang d'un donneur bénévole, on doit normalement examiner ce sang pour connaître son état chirurgique.
Faites-nous un témoignage quand vous arrivez dans ce centre où on pourrait vous prélever le sang. Comment ça se passe? Dites-nous, vous rencontrez l'infirmière, expliquez-nous un peu les étapes. Peut-être que ça pourra rassurer d'autres personnes qui doutent encore du bienfait du don de sang.
Donc, en fait, lorsque vous arrivez dans un hôpital, on doit d'abord vous mettre en contact avec un laboratoire. Le laboratoire doit prélever votre sang pour mettre en examen. Et après la suite, on connaît déjà ton état chirurgique. À ce moment-là, on peut vous soutirer ce sang-là pour réserver dans un bac de sang. Enfin, pour ceux qui en ont besoin, on puisse les donner ou les remettre ce sang.
Mm-hmm.
Mais ce qui me pousse actuellement d'intervenir, parce que je vous ai avoué que je suis donneur bénévole dans un hôpital de la place.
Mm-hmm.
Mais ce qui m'avait un peu découragé, nous, on donnait gratuitement ce sang, mais il faut avouer qu'après notre octroi gratuit, ces hôpitaux passaient à sauter à la commercialisation de ce sang. Alors qu'on avait cité des enfants, surtout si chez nous à Ouvira, il y a la maladie qui prend des reproductions, c'est la maladie anémique auprès des enfants.
Mm-hmm.
Donc on donnait ce sang gratuitement auprès des enfants, mais ces hôpitaux passaient à la commercialisation. C'est ce qui m'a inquiété et c'est ce qui m'a étonné pour ce fait même pour que je me retire dans cette organisation.
Merci, c'est votre inquiétude, vous vous étonnez, vous vous indignez que le sang que vous avez donné bénévolement soit vendu aux patients. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Oui Bernard, on vous écoute, vous êtes à Badolid.
Oui, juste je voulais intervenir sur ce qui concerne les dons bénévolants du sang. Ce que nous avons constaté ici, il n'y a pas de banques de sang pour concevoir le sang.
Mm-hmm.
Maintenant, il y a des examens qui se passent à un moment donné lorsqu'on prélève l'échantillon, et puis il y a vraiment des examens frais, ce qui n'est pas vraiment sensible pour le test du VIH ainsi que les autres maladies intellectuellement.
Mm-hmm.
Maintenant, lors des transmissions, lors de la perfusion, de ces sangs-là, on s'assure qu'il y a à quelques temps près, il y aura des effets secondaires qui vont agir chez la personne qui a été soumise à la transfusion.
Mm-hmm.
Et c'est ce que j'ai voulu intervenir pour que notre gouvernement ait un peu la politique de mettre dans tous les hôpitaux ce que nous appelons les banques du sang, comme ça se passe au niveau des concessions.
Merci beaucoup Bernard. Votre préoccupation qu'on puisse, c'est possible, équiper presque tous les hôpitaux afin de pouvoir transfuser en toute sécurité. Bonjour Jean Delacroix.
Bonjour.
Vous êtes à Baraka, c'est au nord Kivu, on vous écoute.
Non, non, on Baraka, c'est le nord Kivu, c'est au sud Kivu.
Merci, on vous écoute, Jean Delacroix.
Ok, moi j'aimerais seulement appuyer l'idée de mes prédécesseurs qui ont déjà intervenu dans cette émission. Seulement, j'aimerais simplement dire ceci, donner le sang, vraiment, c'est une chose vraiment encouragée.
Mm-hmm.
Et que les gens s'adonnent beaucoup pour donner le sang. Alors, moi, j'ai une préoccupation, j'ai une question qui traverse mon esprit beaucoup plus. La question est la suivante.
Mm-hmm. On vous écoute.
Quels sont les groupes sanguins qui sont permis de donner bénévolement les sangs? Est-ce que n'importe qui peut donner les sangs, ou ça dépend du groupe sanguin? Les groupes sanguins qui sont vraiment permis de donner les sangs, que ce n'est pas, moi je ne pense pas que ce n'est pas n'importe qui peut donner les sangs. Les groupes là qui sont spécifiquement permis pour donner les sangs, est-ce qu'on peut vraiment les détailler pour que les gens sachent comment on peut donner les sangs et les groupes qui sont concernés pour donner les sangs?
Et on va poser cette question au docteur, hein, il est au bout du fil, il pourra vous donner des précisions, Jean Delacroix, et merci pour votre intervention. Nous prenons le dernier auditeur de cette série, il s'agit de docteur Richard, il est à Kinshasa. Bonjour docteur Richard.
Bonjour Chantal, et bonjour à tous les auditeurs ainsi qu'à votre invité.
Oui docteur Richard, on vous écoute en rapport avec la transfusion sanguine, mais aussi les problèmes liés au don de sang.
Oui. Par rapport à la transfusion sanguine,
mm-hmm.
je sais qu'il y a beaucoup de problèmes qui se disent là-bas. Il y a les croyances religieuses ainsi que d'autres croyances.
Mm-hmm.
Moi, je vais parler comme d'abord secouriste et donneur bénévole de sang, et ensuite comme médecin, et enfin peut-être comme bioéthicien, donc médecin bioéthicien.
Mm-hmm.
Alors, je dis ceci. J'ai commencé le don de sang quand j'avais 17 ans et demi. Dans une circonstance particulière, c'était au quartier 7 Angili, au centre de santé de l'hôpital des Chinois qu'on vient de construire.
Mm-hmm.
J'avais appris à cet âge-là qu'il y avait une dame qui mourait parce qu'il n'y avait pas de sang. Mm-hmm. J'ai eu de la compassion pour cette femme. Il avait fait, je crois, une déchirure de col et elle avait perdu beaucoup de sang. C'était la première fois que j'avais donné une unité de sang et cette femme a eu la vie sauve. Voilà comment j'ai commencé à flirter avec le don bénévole de sang et le secourisme, parce que je suis secouriste aussi.
Mmh.
J'ai fait cheminer comme ça jusqu'à ce que je fus décoré à l'université parce que j'étais donneur bénévole de sang et activiste de la Croix-Rouge sous l'égide du docteur Mouteba, que je salue, qui est aujourd'hui médecin directeur du CNPP.
Mm-hmm.
J'ai été décoré comme donneur, chevalier de donneur bénévole de sang, parce que j'avais donné plus de 50 unités.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, j'ai eu à sauver des vies humaines qui étaient dans le besoin. Alors maintenant, quel est le problème qui se pose?
Oui, avant de revenir au problème,
ils ont de sang, ils ont plus de sang. Ils ne savent pas que le sang en étant donné à quelqu'un d'autre, ne fait que 120 jours de vie et soutient cette personne jusqu'à ce qu'il va produire ses propres sangs,
mm-hmm.
donc son propre globule rouge. Voilà. Alors, les gens ont peur peut-être des réactions de rejet ou d'incompatibilité par rapport au groupage ABO, et on va même plus loin dans l'identification d'autres antigènes tels que HLA. Donc, voici comment j'ai cheminé. Alors, maintenant, comme médecin, partout où je suis allé, à l'intérieur du pays, et plus précisément au Bas-Congo, j'ai travaillé à Matadi, à Bouta, à Mwanga et Lukuna, je faisais le don de sang en premier pour guider la douleur. Jusqu'à ce que je suis devenu même responsable de la Croix-Rouge de Mwanga,
mm-hmm.
j'ai organisé le don de sang à l'hôpital de Mwanga, il n'a pas duré long feu,
oui.
Parce que j'étais appelé à devenir médecin directeur à l'hôpital général des ressources de Lukula.
Oui,
et là-bas, j'ai continué avec le don de sang,
oui.
Jusqu'à ouvrir un sous-dépôt, parce que je venais d'être formé comme quelqu'un qui lutte contre le sida à l'école de santé publique, c'était en 1990, donc
90. Oui,
voilà. Docteur, un sous-dépôt de sang là-bas, qui donnait le sang testé. Donc, c'était pour secourir les gens. Voilà comment j'ai cheminé.
Mm-hmm.
Maintenant, comme bioéthicien, médecin bioéthicien aussi, la question qui se pose là, lorsqu'on est devant les croyances, est-ce que c'est pour sauver les vies humaines ou pour les enterrer précipitamment? Je crois que celui qui donne le sang fait un don de sa vie. Parce que dans la Bible, je sais qu'il y a des églises qui refusent ça. Le sang, la Bible dit, dans le sang, il y a la vie. Et le sang, je ne sais pas comment il croit. Moi, je crois que celui qui donne un peu de son sang à quelqu'un qui est en difficulté, lui donne un peu de sa vie. Il fait la réanimation par le sang.
Oui.
Il ne connaît pas un verset de la Bible qui est contre le don de sang.
Oui,
et puis, je pose la question à ces personnes-là. Pourquoi ils ne sont pas contre les mèches naturelles que les femmes mettent sur leurs cheveux, sur leur tête pour devenir belles? Ce sont les organes des autres, les salaires des autres.
Oui,
et donc, voilà comment je peux résumer mon intervention pour dire que le don de sang, c'est le don profond de soi à quelqu'un d'autre qui est en difficulté et qui est devant la mort.
Oui, docteur Richard, c'est vrai, vous avez parlé, en fait, vous avez fait allusion à une récompense que vous avez reçue, était-ce en nature, parce qu'il y a un auditeur qui se plaignait en disant nous donnons souvent notre sang, mais souvent nous ne sommes pas récompensés ni motivés. Est-ce que cette motivation était-elle en espèces ou en nature?
Pardon?
La récompense que vous avez reçue, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui se posent des questions en disant nous donnons notre sang, on n'est pas motivé, on n'est pas récompensé. Est-ce que c'était en espèces ou en nature le fait que vous ayez été récompensé?
Oui. Je vous ai pas bien saisi parce que mon téléphone venait de tomber dans l'eau, bon, et je ne vous écoute pas bien. Je crois que les gens ne peuvent pas avoir peur de donner le sang.
Ce
qu'il faut retenir, c'est le sang non testé qui peut contenir des maladies.
Le
VIH/SIDA, etc., le virus, l'hépatite, etc.
Il faut aller plus
loin dans les tests.
S'il vous plaît, docteur.
Ceux qui prennent les drogues ne donnent pas le sang. Ceux qui fument, qui boivent l'alcool, donc qui
fument
la cigarette, ne peuvent pas aussi donner le sang. Parce que ça
sert à des
sang empoisonné.
Alors, on a un problème vraiment là de communication. Si vous n'arrivez pas à nous suivre correctement, mais quand même, merci pour votre intervention et tout.
C'est mon téléphone, je pourrais vous aider.
Merci beaucoup, docteur Richard, pour votre intervention. Il y a Lucie qui nous écrit à travers notre adresse internet pa@radiocapi.net. Dans mon église, la transfusion sanguine est strictement interdite et aussi la Bible interdit cela car la vie se trouve dans le sang. Voilà ce que Lucie de Kinshasa nous a écrit. Nous allons reprendre notre invité, Dr Sylvain Yuma, il est directeur du service national de transfusion sanguine, et avec lui nous allons essayer d'échanger encore une fois sur toutes les observations, préoccupations ainsi que propositions de nos auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Docteur Sylvain, encore une fois, j'espère que vous avez suivi nos auditeurs, plusieurs préoccupations, par exemple Pierre qui souhaitait être récompensé. Qu'est-ce que vous faites en fait pour pouvoir motiver davantage les gens à ne pas pouvoir être désespérés ou laisser tomber?
Ok, merci beaucoup. Je remercie d'abord Pierre parce qu'il est donneur de sang, donneur de maisons de sang, et ça c'est très important, donc c'est vraiment l'exemple à suivre. Alors, au-delà de ça, je voudrais lui rappeler que le don de sang a ce qu'on appelle le principe éthique. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le volontariat, le bénévolat, l'altruisme et même la responsabilité. En fait, au-delà du don de sang, un donneur bénévole ne doit pas attendre quelques récompenses de quelle nature soit-elle. Ça, c'est vraiment des principes sacrés, universellement consacrés. Alors, mais pour que ces donneurs-là reviennent plusieurs fois, il faut arriver à les fidéliser, à les rendre réguliers. Et pour y arriver, il y a, c'est tout à fait normal de lui accorder certaines facilités ou certaines petites récompenses, pas en, en matière d'argent, pas en termes d'argent, ou en termes de d'autres biens matériels. Mais ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que, comme l'a dit Richard, que je veux vraiment remercier le Dr Richard, qui a partagé son expérience, c'est que, après, par exemple, trois dons, à un donneur régulier, on lui donne une carte. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui prouve que quelqu'un, partout il passe, dès qu'il monte, on sait que c'est un donneur de nouveau régulier. Quand il aura totalisé 10 dons, on lui donne un diplôme, qui a une couleur particulière. Et quand il a 120 dons, on lui donne un autre diplôme. Et donc, c'est comme ça, et c'est pas des cérémonies, c'est organisé à différents.
Donc, le bonheur, c'est d'avoir sauvé plusieurs vies.
C'est ça.
Mais quand entendez-vous?
Donc, on ne sait pas parce que le geste qu'il pose n'a pas de prix. C'est pas l'équivalent de combien en fait d'argent qu'on peut donner ou en bien qu'on peut donner à un donneur qui a sauvé une vie.
Voilà la
que le monde a réfléchi en mettant le principe.
Et par rapport à Séraphin qui est vraiment scandalisé lorsqu'il constate que le don qu'il a fait gratuitement est vendu aux patients.
Voilà. Je voudrais remercier d'abord Séraphin et lui rappeler que, parce qu'à tous les donneurs, on dit ça, que le don de sang est gratuit et bénévole, mais la transfusion a un coût. Parce que, on peut, pour prélever le sang, il faut qu'il y ait un minimum de conditions. Il faut qu'il y ait des poches dans lesquelles on doit mettre ce sang-là. Il faut qu'il y ait toutes les aiguilles qu'on doit utiliser. Il faut qu'il y ait les tests auxquels on doit soumettre ce sang-là. Donc, le minimum, c'est 4 tests. Et ce sang-là doit être conservé dans un frigo, dans des conditions optimales. Et il faut qu'il y ait des gens qui utilisent cette transfusion pour la faire passer auprès du malade. Et tout ça, ça constitue quelques éléments de coût qui entrent dans le coût des sessions d'une poste de sang.
Donc,
nous disons, nous parlons même en termes de, pas en termes de vente de poste de sang, mais en termes de sessions de poste de sang.
Ah, donc, ils ne sont pas démotivés.
Il y a, pour les donneurs, on recommande à ce qu'à un donneur, parce qu'il a posé ce test-là gratuitement, qu'il puisse avoir la facilité, s'il est dans le besoin, s'il est dans les capacités de pouvoir donner quelque chose, qu'on lui donne gratuitement aussi. Et là, c'est pour ses parents très proches. C'est pour son enfant, sa femme ou ses parents très proches. Mais parce que souvent, les avis, c'est quoi? C'est qu'on vient demander du sang pour l'oncle, pour la tante et tout ça. Et vous imaginez, vous avez donné une poche de sang. Et si on doit donner à tout le monde, mais si tout le monde devrait venir réclamer ça, et donc la banque va se vider.
Est-ce qu'il y a une alimentation spécifique après avoir donné son sang?
Non, il n'y a pas une alimentation spécifique. Donc, tout est calculé par les scientifiques de sorte que quand on vous retire le feu qu'on doit vous retirer, c'est déjà en fonction du poids et du volume sanguin total de l'individu. Donc, ça ne cause aucun problème à l'individu. Elle va continuer, donc la personne doit continuer à mener sa vie normalement. Sans qu'il y ait des inconvénients sur celle-ci.
Oui. Et en fait, quelle est votre politique d'équipement des banques de sang? Ça, c'est vraiment la préoccupation de Bernard de Badolite.
Oui, ça c'est un problème réel parce que mon collègue de Badolite et même ça ont évoqué ce problème. En fait, vous savez que le pays est grand. Dans le système de santé, le pays est divisé en 515 zones de santé. Et la politique prévoit que au niveau de chaque zone de santé qui est au moins une banque de sang à l'hôpital général et dans les centres de santé de référence tout autour. Et là, c'est énorme en termes de coûts et nous sommes en train d'y aller progressivement en équipant les zones de santé avec les équipes. Par exemple, on a parlé de Baraka, on a parlé de Guadolite, on a parlé de Guimena et même de Sindou. Et des caminats, par exemple, la personne de Chine a dit qu'il n'y a pas de conditions de contrôle. Donc, ça, ce n'est pas, il faut qu'elle vérifie parce que, à l'hôpital général, il y a une banque de sang. De l'autre côté de la rive, à Lungouli, il y a une banque de sang, panneaux solaires même qu'on a mis parce qu'on sait que dans notre pays, il y a des problèmes de et on a prévu des banques de sang, donc des frigos avec panneaux solaires. Donc, pour fonctionner dans n'importe quelle forêt sans qu'il y ait des problèmes en termes de sources d'énergie.
Oui, le temps. Oui, on va écouter aussi Norbert de Kananga et Dr Mbo de Kinshasa, mais une dernière préoccupation de notre auditeur, il voudrait savoir quels sont les groupes sanguins qui peuvent donner leur sang.
Ah, voilà. Ça c'est aussi une bonne question. En fait, il n'y a pas de groupe sanguin spécifique. Tous les groupes sanguins sont susceptibles à faire le don. En fait, c'est tout le monde qui en aura besoin.
Mm-hmm. Ouais.
Parce que souvent, les gens ont l'habitude de dire que je suis du groupe O positif, donc je suis très fort, c'est moi qui peux donner du sang. Non, c'est pas ça. C'est tout le monde qui peut donner du sang.
Mm-hmm.
Le problème intervient maintenant qui va, c'est par rapport à la personne, au groupe, qui a la possibilité de donner à plusieurs autres groupes.
Mm-hmm.
C'est ça le problème, parce que quelqu'un, par exemple, un sang du groupe O, et je dis bien pas le sang total, c'est-à-dire le concentré des globules rouges du groupe O, peut donner aux autres groupes sanguins.
Mm-hmm.
Ouais.
Voilà.
Par contre, si quelqu'un du groupe A peut donner à la personne du groupe A, B ne peut donner à la personne du groupe B, AB ne peut donner à la personne du groupe AB, et O peut donner à B aussi.
Nous allons revenir avec la préoccupation de Lucie, qui nous écrit à l'adresse internet à @radiocatholique.net sur les convictions par rapport à sa religion qui l'interdit strictement de pouvoir passer par une transfusion sanguine. Il est temps d'abord d'écouter Norbert à Kananga. Bonjour Norbert.
Bonjour Marie-Chantal, bonjour à l'invité, bonjour à tous les invités de la radio catholique. Je voulais juste intervenir pour vous dire que les gens ne donnent pas la vie, quand même, c'est Dieu qui donne la vie. Donc, il faut ajouter aussi à Kananga ici que on donne les sangs, mais c'est là qui donne les sangs qui sont dit, ce que sont dit les donneurs, mais on donne aussi quelque chose aux donneurs. Mais là, quand on donne quelque chose aux donneurs, c'est juste pour que les donneurs puissent avoir la bonne volonté de donner les sangs prochainement. Mais là, imaginez-vous, on donne les sangs et on trouve quelque part là, on a jeté les sangs des autres. C'est juste pour vous dire qu'on ne conserve pas les sangs ici à Kananga. Très bien. Mais il y a aussi des villages.
Oui, Norbert? En fait, on a perdu Norbert. Il est en train de nous expliquer qu'il a constaté que le sang n'est pas bien conservé dans certains endroits, surtout lorsqu'on rencontre ces poches de sang qui sont jetées. C'était ça sa préoccupation, mais il voulait aussi nous dire autre chose, mais on l'a perdu. Peut-être qu'on pourra essayer de pouvoir le recontacter. La réalisation pourra faire un effort. Mais il y a aussi Dr Mbo à qui passe un bonjour.
Bonjour madame.
Docteur, on vous écoute.
Oui, merci, salut docteur. Je voudrais lui poser une question en rapport avec l'équipement des zones de santé en banque de sang.
Mm-hmm.
Parce que nous ici, à Kinshasa, notamment, nous sommes dans la zone de Kalamoka. Nous avons suivi une formation, je crois, en 2009, dans le cadre, justement, de nous équiper progressivement. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas venir ce programme-là. Je voulais savoir si le confrère ou le directeur peut nous dire où est-ce qu'on en est pour cette politique-là de continuer à équiper les centres de la ville de Kinshasa. Ça c'est un. De deux, c'est pas si j'ai un peu de temps pour donner juste un petit, pour appuyer ce qu'il a dit.
Bien sûr, docteur, vous pouvez y aller.
Par rapport au principe éthique pour l'auditeur qui a posé la question, je crois, du côté de Kindoula, il y a un autre principe que le docteur n'a pas dit, c'est l'anonymat. Donc, un donneur de sang, il doit d'abord être volontaire. Et dès qu'il est volontaire, ça dit qu'il oublie tout, il s'oublie, il y a la prisme. Il doit rester anonyme, parce que sinon on ne va pas dire, ah non, tel porte le sang, il a dans son corps le sang qu'un tel a donné. Vous voyez ce que ça veut dire sur le plan des relations interprofessionnelles dans la communauté. Donc, quand on est donneur bénévole, on doit aller jusqu'au bout de cette logique-là. Et c'est une bonne logique à mon sens. Et je crois que pour l'autre qui a parlé de la vente du sang, en fait, il n'y a pas de vente. Je crois qu'on peut s'associer les donneurs bénévoles pour faire pression, lobby sur les décideurs, de façon à ce qu'on puisse investir beaucoup de sous dans cette opération pour que, alors, la transfusion soit entre guillemets gratuite.
Mm-hmm.
Parce que si nous prenons, par exemple, les cas au Bénin, toutes les césariennes sont sponsorisées par l'État. Donc, si vous avez un cas de césarienne au Bénin, on fait ça gratuitement. Mais en fait, ce n'est pas gratuit, c'est l'État qui paye quelque part.
Mm-hmm.
Donc, on peut faire pression sur les décideurs pour que on mette beaucoup de moyens, parce que, comme a dit le directeur du programme, il y a un coût annexe, mais ce n'est pas le coût du sang, non, le coût de tout ce qu'on fait là-bas. Voilà ce que je voulais ajouter comme intervention.
Mm-hmm. Merci beaucoup, docteur Mbo, pour votre intervention. Nous allons s'écouter Christian avant qu'ensemble nous puissions suivre notre flash d'information qui va intervenir dans presque 3 minutes. Bonjour, Christian.
Bonjour.
Oui, Christian, vous êtes à Pandroma. On vous écoute, Christian.
Oui. Merci beaucoup. Je salue d'abord notre invité, également tous les journalistes de la radio Papi. Et donc, le don bénévole du sang, c'est vraiment une chose à encourager. Mais ici, à Pandroma, les gens ne se présentent presque pas pour donner du sang.
Mm-hmm.
Alors, la cause, vous savez, parce que la vie de notre population au Congo n'est pas encore améliorée. Mm-hmm. Ça, c'est pour dire, par exemple, les gens ne travaillent pas sous les salaires. Par exemple, ici à Pandroma, on a besoin d'être fort physiquement pour bien cultiver. Vous savez, depuis le matin, cultiver jusqu'à midi, car midi passé, ça, c'est drôle. C'est comme cela que les gens ont peur suffisamment pour donner du sang. Alors, c'est parce que après avoir été soumis à la transfusion, cela exige après de bien manger. Alors, ce qui se passe ici, comme on peut vous informer, de la situation des dons bénévoles de sang, il n'existe pas pratiquement les dons bénévoles de sang, mais ce qui se fait ici, c'est seulement, on fait l'appel aux membres de la famille concernée. Maintenant, on va les mettre, on va les soumettre au test de groupe sanguin, soit le VIH, etc. Si on trouve que le sang est compatible pour ça des malades, on assiste seulement ces malades-là. Alors, ça pratiquement,
s'il vous plaît,
les volontaires qui se
font. Nous allons bientôt suivre notre flash d'information. Nous allons vous reprendre tout juste après pour la seconde partie de Parole aux éditeurs. Nous gardons notre invité, docteur Sylvain Yuma, pour la seconde partie. Mais entre-temps, voilà, nous reprenons Parole aux auditeurs dans sa seconde partie. Et aujourd'hui, Parole aux auditeurs est centrée sur le don de sang. C'est en marge de la journée internationale du don bénévole du sang, célébrée chaque 14 juin. Cette journée est une occasion pour réfléchir sur l'importance, l'enjeu du don de sang, mais aussi une opportunité pour sensibiliser la population et remercier les donneurs bénévoles. Selon l'autorité sanitaire, grâce au don de sang, des millions de personnes, des milliers de vies sont sauvées chaque jour. Quelle est la situation du don de sang chez vous? Que faire pour approvisionner régulièrement les banques de sang? Voilà les questions qui nous ont permis de lancer notre émission à partir de 10h03 heure de Kinshasa. Et pour en parler, nous avons invité Dr Sylvain Yuma, qui est toujours en ligne. Il est le directeur du service national de transfusion sanguine. Et si vous voulez participer à cette émission, vous exprimer, il suffit de composer le 081-890-6315, 081-890-6315, ou nous écrire à l'adresse internet ca@radiookapi.net. Déjà avant ce bulletin d'information que nous avons suivi ensemble, il y avait des questions, des préoccupations de nos auditeurs. Par exemple, il y a eu Dr Mbo de Kinshasa qui voudrait savoir qu'en est-il de l'équipement de la banque de sang dans la zone de santé de Kalamu, mais aussi il a donné quelques instructions, hein. Il a renchéri nos invités concernant l'éthique. Il a souligné la question sur l'anonymat du donneur de sang, mais aussi il a donné des éclaircissements sur d'autres questions, notamment la commercialisation. Il pense que c'est une commercialisation, mais en fait ce sont des petits frais qui permettent de pouvoir transfuser en toute sécurité, et ce n'est pas la vente du sang que vous, donneur, vous avez remis gratuitement. J'espère que docteur Sylvain est toujours en ligne. Docteur Sylvain? Docteur Sylvain?
Oui.
On va essayer de pouvoir le recontacter parce qu'il est en ligne, mais apparemment il ne nous suit pas très bien. Nous allons poursuivre avec les autres auditeurs qui veulent intervenir. Bonjour Séraphin.
Bonjour madame.
Vous êtes à Kinshasa, on vous écoute.
Ben oui madame, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'avis développé tout à l'heure par le docteur Richard.
Mm-hmm.
Par contre, je suis de ceux qui pensent qu'il faudra plus que le gouvernement puisse trouver une politique
mm-hmm.
pour essayer d'encourager la population de trouver comment on dit les fonds de nourriture que des donneurs bénévoles. Pourquoi cela? C'est parce que je me dis, si je prends le cas de notre pays, la population congolaise est composée à majorité 80% habitants des milieux ruraux. Je me dis, dans ces milieux-là, ils n'ont pas de possibilités pour conserver l'essence.
Mm-hmm.
Donc, qu'est-ce qu'on pourra conseiller, par exemple, aux populations qui habitent nos villages et qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont rien, qui n'ont pas de frigo, comment ils vont conserver l'essence? Je crois que les donneurs bénévoles aujourd'hui, qui ça peut aider, ce n'est qu'une solution palliative.
Mmh.
Mais il faudra plus encourager la population à plus consommer des aliments où on peut trouver le sens dedans que à continuer à encourager la politique de donneurs bénévoles. Comme vous avez dit vous-même, il y a des gens qui consomment la boisson, de l'alcool, de la cigarette et tout. Donc, il y a encore des doutes qui planent sur la conservation des sens. Voilà un peu mon opinion.
Mmh. Dites-nous aussi, c'est vrai que vous pensez qu'il faudrait encourager une alimentation conséquente en vue de pouvoir éviter l'alternative de transfusion sanguine. Séraphin, que pensez-vous en fait, parce qu'il y a des cas, par exemple pour les enfants qui sont anémiques, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Justement, j'ai parlé de la solution palliative qui consiste en fait qu'il y ait des donneurs bénévoles. Mais dans notre temps, justement, l'État s'est développé une politique, même pour les cas des enfants anémiques. Donc, on peut arriver à les sauver par rapport à ce que j'ai dit, donc leur donner des aliments par rapport à leur situation.
Mais
il faut vraiment encourager avec les donneurs bénévoles. Ouais, tout à l'heure, il y a un auditeur qui intervient qui dit on doit les payer. Donc là, ça pose déjà un problème. C'est vrai qu'on pourra avoir plusieurs bénévoles, mais cette fois-là, comme nous sommes dans un pays en crise, où tout le monde voudrait se faire bénévole pour avoir un peu de moyens, ce qui n'est pas tout à fait normal et propre. Donc, il faudra plus qu'on puisse insister et encourager plus la politique où on peut trouver c'est dans des aliments que des donneurs bénévoles.
Merci Séraphin pour votre intervention, votre proposition. Nous prenons Ange qui sera notre dernier auditeur, le temps de prendre le docteur Sylvain Ayouma afin de conclure cette émission. Bonjour Ange.
Bonjour madame.
Oui, Ange,
ma question est celle-ci.
Mm-hmm.
La seule politique est pour persuader beaucoup de Congolais, beaucoup de gens à donner bénévolement à leurs fonds et de sensibiliser les gens. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont pas cette mentalité de donner. Et il y a aussi des pratiques, des croyances, quoi, des traditions dans le chef des plusieurs Congolais. Donc pour arriver à persuader beaucoup de gens à donner bénévolement leur sang, il faut la sensibilisation. Il faut leur montrer le bien fondé de donner le sang gratuitement. Et puis la deuxième chose, c'est vous savez, en RDC, le sang, c'est la vie. Donc lorsque vous parlez du sang à quelqu'un, c'est la vie. Et par exemple, il y a des adeptes, les gens disent des mots les amatina. Bien moi, ça pénètre fanatique, il y a 20 pieds de la machine. Vous voyez, donc ça représente quelque chose de très très important pour les Congolais. Donc, il faut arriver à montrer aux gens que mais ça, c'est comme toute autre matière, c'est comme de l'eau dans les corps humains. Il ne faut pas mystifier le sang, je ne sais pas comment. Et puis, je ne suis pas d'avis avec le médecin qui dit qui soutient qu'avant, donc pour le patient, avant de donner ou bien de transférer le sang à un patient, il faut vraiment donner quelque chose. C'est pas dit, est-ce que quelqu'un qui a donné son sang gratuitement, bénévolement, Il doit être content lorsqu'il trouve quelqu'un décédé dans un hôpital parce qu'il n'a pas donné l'argent là qu'on demande avant la transfusion des frères. Il est très content. Lorsqu'il va se dévoiler, alors que lui, il a donné. Alors qu'il a donné ses engagements, mais pour le médecin, ça devient autre chose.
Merci.
Je ne suis pas d'avis avec le médecin qui a dit qu'il faut donner avant la transfusion des seins, il faut donner quelque chose. Mais pour nous ici, il y a un problème aussi de conservation des seins. Il y a une société d'assistance, je ne sais pas si je peux citer les noms,
c'est pas nécessaire
de la place.
C'est pas vraiment nécessaire, parce qu'il faudrait qu'on évite de citer les noms, sinon ils auront un droit de réponse, et là ça va devenir un peu très long. Donc donner seulement le témoignage.
Merci. Il y a des pays qui se passent qui s'occupent de la conservation, mais sans pas que la ville habitée a un problème d'électricité, quoi. C'est ça. Il faudra aussi chercher une politique pour bien conserver aussi. C'est ça. Et c'est vrai que ne donne pas aussi le médecin l'occasion de majorer les prix et avoir la transition de ça.
Merci Ange pour votre intervention. Nous revenons au docteur Sylvain Yuma. Docteur, j'espère que cette fois-là vous êtes en ligne.
Oui.
Oui, docteur, plusieurs préoccupations. Par exemple, le docteur Mbo qui voudrait savoir où en est-on avec l'équipement de la banque de sang de Kalamu 1. Allô, docteur?
Oui. Merci beaucoup. Je remercie encore tous les intervenants parce qu'ils ont abordé pratiquement toute la chaîne transfusionnelle, c'est-à-dire à partir des donneurs lui-même et passant par la conservation du produit sanguin et même le test. Alors, le problème ici, je voudrais d'abord rassurer le docteur Mbo en lui disant qu'il y a tout un plan d'installation de banques de sang à travers le pays. Et nous y allons progressivement en fonction de plusieurs critères. C'est-à-dire, il y a d'abord, on regarde le positionnement de la structure par rapport à la banque de sang la plus proche pour le problème d'accessibilité. Et donc, on regarde aussi la population qui est desservie par la structure, et tout ça fait en sorte que, parce qu'on ne sait pas faire tout ça à la fois, on ne peut pas équiper toutes les structures à la fois, étant donné que nous avons des approvisionnements qui viennent progressivement, on privilégie d'abord là où il y a vraiment des urgences, quant aux autres, on les oriente dans les structures les plus proches.
Oui, docteur, il y a aussi une question assez pertinente par rapport à la politique de transfusion sanguine. Est-ce que vous tenez des plaidoyers en vue que le gouvernement puisse en fait réduire au coût le plus minimal possible la transfusion sanguine? Parce que quand les donneurs donnent gratuitement et qu'en retour on doit demander quelque chose, bien sûr, pour pouvoir améliorer la qualité de la transfusion sanguine aux patients, vous voyez un peu... C'est un peu compliqué pour le donneur qui donne bénévolement.
Oui, ça c'est le problème important. Parce que nous, à ton niveau, notre mission c'est d'abord mettre en place les structures, c'est-à-dire pour qu'il y ait des équipements capables de pouvoir permettre une bonne conservation. Il faut aller vers le donneur, le sensibiliser pour qu'il y ait du sang dans ces structures-là. Et puis il y a la politique de tarification en termes de malades. Et ça c'est toute la réflexion. Parce que pour nous, la transfusion, parce que c'est une urgence, il faut d'abord transfuser et peut-être demander l'argent après. On ne peut pas conditionner une transfusion par le paiement de l'argent au départ. Ça c'est criminel et c'est inacceptable. Malheureusement, c'est des faits qui sont observés dans le système. C'est là aussi maintenant cette collaboration intersectorielle, c'est-à-dire la direction qui s'occupe des hôpitaux. Il y a notre programme aussi, et c'est des gens qui devront travailler ensemble pour voir par rapport à l'accessibilité de patients aux soins. Il faut vraiment faire en sorte qu'on mette à la disposition des patients des possibilités, des moyens de plus accéder aux services à de moindres coûts.
Et concernant en fait la destruction de ces postes périmés, parce qu'il y a un auditeur qui était vraiment choqué de voir qu'il a donné son sang gratuitement et puis il retrouve ses poches de sang à l'extérieur ou bien dans des poubelles. Est-ce que vous ne pensez pas que ça devait se faire peut-être en toute discrétion lorsque c'est périmé au lieu de l'éjecter comme l'a dit notre auditeur?
Oui, vous savez, le sens, comme on dit, le sens, c'est un peu quelque chose qui est spécial, parce que vous imaginez, le fait seulement de voir une goutte, c'est sans comme ça, après cette raison, toute une poche pleine, on la voit dans une poubelle, ça choque. Il y a toute une procédure qui est décrite pour pouvoir comment gérer le sang infecté. Parce que ça fait partie de la gestion des déchets, donc il faut des poubelles qui doivent être étiquetées, bien fermées et les orienter dans les incinérations et dans les incinérateurs pour qu'ils puissent être éliminés. C'est ça qui est décrit. Mais c'est dommage s'il y a encore des structures qui se comportent comme ça en mettant à nu certaines poches de sang. Ça, ce n'est pas recommandé en principe. Ça fait mal à quelqu'un, sans bien même la personne est informée quand il y a une personne dans le sang. Lorsqu'on fait le transmis, on lui dit qu'on va faire tel test, au cas où ce test-là est révélé positif. Et ça, là, ne peut pas aller à un
recteur,
on va l'éliminer.
Merci beaucoup, docteur. Nous sommes arrivés ainsi à la fin de cette émission sur le don bénévole de sang. Nous disons aussi merci aux auditeurs pour leur intervention. Nous nous retrouvons demain, jeudi, à partir de 11h, heure de Kinshasa, pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Nous allons échanger sur les préparatifs pour les manifestations célébrant le 50e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Voilà la question. Vous pouvez réagir dès à présent. Nous écrivons l'adresse internet pa@radiocapi.net. Merci à Cécile Koutou, à Bélia Massinda et à Nicole Ngaka pour la production de cette émission. Sans oublier Guy Manzangou qui était à la mise en onde. Marie Chantal à la présentation. Donc, à demain.